5h, 7h,
Julien Pierce sur Europe 1.
D'écouter Europe 1, il est 6h01.
Le journal de 6h vous est présenté par Céline Kallmann. Bonjour Céline.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
À la une.
12 enfants de djihadistes français rapatriés hier de Syrie sont arrivés à Villacoublay dans les Yvelines. Le chauffard qui a tué un garçon de 10 ans à Lorient dimanche, toujours recherché par la police, on connaît désormais son identité. Les relations se tendent un peu plus entre Renault et Nissan. Renault qui menace de bloquer une réforme de la gouvernance de l'entreprise japonaise. Et puis le journal des sports de Jérôme Lacroix dans quelques minutes avec à la une la fin de carrière de Tony Parker, mais aussi les footballeurs qui jouent ce soir en Andorre dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2020. 12 enfants, dont 10 orphelins français, ont été rapatriés hier à Villacoublay. Un peu plus tôt, des responsables kurdes du nord-est de la Syrie les ont remis dans les mains d'une délégation du ministère des Affaires étrangères. Tous vivaient dans des camps, dans des conditions très difficiles. Parmi eux, un frère et une sœur de 3 et 9 ans, dont la mère a accepté de les laisser partir, de les laisser rentrer. Les proches espèrent maintenant obtenir leur garde. Ils sont originaires de la région de Lunel, dans l'Hérault. Le reportage de Benjamin Péter.
L'aîné n'avait que 5 ans quand Saïda, sa maman, est partie épouser Yassine Sakam, un djihadiste originaire de Lunel, exécuté en Irak à la fin du mois de mai. Les oncles, les grands-parents des enfants avaient porté plainte pour enlèvement. Pour maître Sophie Mazas, l'avocate de la famille, ça fait de longs mois que Saïda espérait que ses enfants rentrent en France.
Ça fait un an et demi qu'elle a accepté, elle a toujours persévéré dans cette voie. C'est un sacrifice, effectivement. Ça va être très dur là-bas pour elle, mais elle ne voulait pas que ses enfants payent pour ses erreurs. Elle sait qu'en France, ils seront bien. C'est un gros soulagement. Et maintenant, ce qu'espèrent les enfants, c'est pouvoir rentrer chez eux pour l'aîné qui a vécu au quotidien avec ses grands-parents. C'est revoir papy, mamie, tonton, retrouver mes copines et mon vélo et oublier la guerre. Avec l'aide qu'il faudra mettre autour, bien sûr.
Ce choix de laisser partir ses enfants, seuls, est lourd de conséquences. Dans le camp de Roj, où ils étaient détenus depuis plusieurs semaines, cette famille était la cible de jets de pierre. Et maintenant que les enfants sont partis, beaucoup redoutent des représailles contre Saïda. Les enfants, eux, vont d'abord être confiés à l'aide sociale à l'enfance, avant que la justice décide de leur garde. Montpellier, Benjamin Péter, Europe 1.
Près de 48 heures maintenant qu'un jeune homme de 20 ans est recherché par la police, après avoir renversé deux garçons volant de sa voiture à Lorient, voulant échapper à un contrôle. L'un des enfants, âgé de 10 ans, est décédé, l'autre grièvement blessé. Des élus seront présents ce matin à l'entrée de l'école où étaient scolarisés les deux enfants. Une cellule psychologique va être mise en place. Précisons que le chauffard a été identifié. Une jeune femme de 21 ans qui l'accompagnait est aussi recherchée. Emmanuel Macron présidera après-demain une cérémonie au Sable d'Olonne pour rendre hommage aux 3 sauveteurs bénévoles morts noyés lors d'une intervention. 15 000 personnes leur ont rendu hommage hier dans la ville. Dans l'actualité également de ce mardi, la mobilisation se poursuit pour les personnels des hôpitaux. 90 services d'urgence sont désormais en grève à travers tout le pays. Les syndicats promettent une très forte mobilisation dans la capitale. Entre 1,7 et près de 4,5 milliards d'euros, le trou de la Sécu va encore se creuser cette année, selon la Commission des comptes. Conséquence notamment du ralentissement économique et des concessions faites aux Gilets jaunes.
Rien ne va plus entre Renault et Nissan.
Oui, après l'affaire Ghosn, après le mariage raté avec Fiat, c'est désormais la future gouvernance de Nissan qui met les nerfs des deux partenaires à rude épreuve. Emmanuel Duteil.
Oui, c'est très tendu en ce moment et oui, il y a des divergences très fortes dans le camp Renault. On ne cache pas son énervement. Le problème, c'est la répartition des postes pour la future gouvernance de Nissan, une nouvelle organisation mise en place après l'affaire Ghosn. Et chez Renault, on voit finalement les choses assez simplement. On a 43% du capital, c'est normal que nous soyons représentés en fonction de notre poids. Mais chez Nissan, on ne l'entend pas du tout de cette oreille et on en a marre d'être un petit peu trop encadré par le cousin français. Du côté de l'État français, justement, on tente d'apaiser les tensions. Bruno Le Maire a rencontré hier matin son homologue à Tokyo et ils ont rappelé leur attachement à l'Alliance. Mais ça, c'est du langage diplomatique. Il y a bien en ce moment des négociations dans chaque camp pour pousser ses pions. On ne divorce pas encore, mais oui, ce sont des négociations dures, reconnaît une autre source qui se veut assez fataliste. Nous sommes le premier actionnaire de Nissan. Ce serait quand même assez compliqué de nous dire que nous n'avons pas raison.
Emmanuel Duteil pour Europe 1. Des parents et une association saisissent aujourd'hui le Conseil d'État, information du journal Le Parisien. Ils veulent obliger les pouvoirs publics et les fabricants à dévoiler les noms des marques de couches concernées par la présence de substances cancérigènes et de perturbateurs endocriniens. Fin janvier, une étude avait révélé la présence de ces produits toxiques.
Avant-dernière semaine du procès Balkany, les juges vont se pencher désormais sur la personnalité des prévenus.
Oui, leur histoire, leur parcours, ça Salomé Legrand suit le procès depuis le début pour Europe 1. Ce qui est certain, c'est que Patrick Balkany est resté parfaitement fidèle à lui-même.
Il y a eu le jour où il a débarqué avec son cigare format barreau de chaise, dépassant de la poche de sa veste et immédiatement planqué par son avocat. Le jour où sa sonnerie de téléphone, les tontons flingueurs, a retenti juste avant le début de l'audience. Il y a eu ses tirades culottées lancées au milieu du prétoire de sa voix de stentor et ses prises de bec avec les avocats des autres quand ceux-ci n'allaient pas dans son sens. Il y a même eu le dialogue avec le Saoudien qui aurait insisté pour lui prêter son avion privé. Dialogue mimé en version originale. Yes, yes, take the plane. Oh no, I have the Royal Air Maroc. Take it, it's nothing. Il y a eu ses commentaires quotidiens en déambulant dans une forêt de micros jusqu'à l'ascenseur menant à la sortie.
C'est quand même extraordinaire même. Ce procès, il se fait en dépit du bon sens depuis le début. Oh, vous savez, ça fait belle lurette que j'ai compris qu'on était plutôt pris en otage qu'autre chose.
Mais il n'y a eu que peu de réponses aux questions les plus embarrassantes. En revanche, Patrick Balkany se sent, je cite, le porte-parole de tous les Français qui ont un petit matelas de côté.
Salomé Legrand du service police-justice d'Europe. Un accident rarissime et spectaculaire hier soir à New York. Un hélicoptère s'est écrasé sur un immeuble dans le quartier de Manhattan. Le pilote a voulu se poser. Il y avait un épais brouillard. L'appareil s'est crashé. Le pilote n'a pas survécu.
C'était le journal de Céline Kallmann. Merci Céline.
Il est 6h07, Julien Pierce.
Dans un instant, notre historien Fabrice Dalméda revient sur la crise qui secoue actuellement les services d'urgence. Crise qui, selon lui, a des causes historiques. Très bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1.
Il est 6h09, Julien Pierce.
Un point avec vous sur la météo, oui. Céline Dacosta. Un ciel couvert, même si il reste des éclaircies.
Oui, surtout ce matin, les éclaircies, après dissipation de quelques brouillards sur le centre du pays, hein, des Hauts-de-France, en passant par l'Île-de-France, la région centre, et puis en descendant vers l'Aquitaine. Là, on aura encore un petit peu de soleil, avec beaucoup de nuages, et puis des averses de part et d'autre, surtout sur l'est du pays, où elles vont être soutenues cet après-midi. Des orages pour le nord-ouest, le tout sous des températures encore fraîches pour la saison. On y reviendra en détail tout à l'heure.
Merci Céline. Anne Le Gall, on pose une question ce matin à nos chers auditeurs sur Twitter. Comment se représente-t-on les extraterrestres? Quelles sont leurs réponses?
Eh bien oui, question posée à l'occasion des 37 ans de la sortie du film E.T. Car Lisa imagine des extraterrestres façonnés comme nous, en tout cas pas comme ceux de la soupe aux choux, souvenez-vous, avec De Funès et Carmet, vous vous souvenez, les épaulettes rouges, ouais. le casque rouge sur la tête. Voilà.
Elle le fait super bien.
Et puis alors...
Non, je le fais pas hyper bien, c'est à peu près
ah,
ça.
Si.
C'est pas mal, c'est pas mal. Et juste Marie-Claire Boll qui nous suggère aussi que les extraterrestres, c'est peut-être un peu nous au réveil. Oui, parfois on peut avoir un petit teint gris de E.T., mais pas ce matin. Non, ce matin on est frais, on est rose, on est bien.
Tout va bien. Merci
pour vos messages.
5h, 7h, Julien Pierce sur Europe 1.
J'accueille maintenant un garçon passé maître dans l'art de la dissimulation. À première vue, Jérôme Lacroix est l'archétype du bon père de famille. Monospace dans le garage, labrador dans le jardin. Jérôme est même copain avec ses voisins. C'est dire. Ce qu'ils ignorent, c'est que notre Toulousain cultive en secret une passion des plus violentes pour le catch mexicain. Chaque week-end, Jérôme écume les rings de la région parisienne. Nom de scène, le broyeur de cornichons. Ses victimes se comptent par centaines. Sa prise préférée, le dévissage de bocal. Alors oui, le Jérôme, faut pas l'énerver. Surtout pas quand il s'apprête à nous présenter le journal de la Coupe du Monde féminine.
La Coupe du Monde féminine.
L'événement foot est sur Europe 1.
Quels sont les titres, Jérôme Lacroix?
Les matchs des valeureuses, les Camerounaises, les Argentines, la veillée d'armes des Bleus avant France-Norvège demain et l'entrée en lice des voraces américaines, champions du monde en titre.
La Coupe du Monde féminine.
Europe 1, radio officielle.
Je voulais démarrer avec cette ambiance captée hier dans les rues de Montpellier. Les supporters camerounais venus encourager leurs joueuses. Elles affrontaient les redoutables canadiennes, 5e nation mondiale. Les camerounaises sont 46e. Alors oui, elles ont perdu hier ces camerounaises, mais un petit but à zéro seulement. Triste mine, mais bonne figure. Et c'était hier la journée des valeureuses. Les Argentines, mésestimées par leur fédération, peu enclines à investir sur l'équipe. Elles ont résisté aux redoutables japonaises, vice-championnes du monde, 0-0.
Et nos bleus alors, Jérôme, quelles sont les nouvelles?
À la veille de France-Norvège à Nice, la pression monte. C'est l'affrontement le plus costaud du premier tour. Entraînement des bleus hier. Et interrogation sur l'état de forme de deux joueuses majeures, la défenseuse Wendy Renard et l'attaquante Eugénie Le Sommer. Toutes deux ménagées, légèrement blessées, le staff parle de simples précautions. Les filles qui joueront demain une nouvelle fois devant des tribunes combles. Plus de 35 500 spectateurs attendus à l'Allianz Riviera. Et ça, ça compte, la défenseuse Amel Majri.
On ne s'en rend pas forcément compte quand on est sur le terrain, mais de sentir toute cette ferveur autour de nous, bah, ça nous pousse et ça nous propulse quand on a des moments, par exemple, de moins bien. C'est ce plus, des fois, qui fera la différence pour nous aider à gagner certains matchs.
Et parmi les spectateurs demain soir à Nice, Didier Deschamps, selon le journal de l'équipe, ce matin, le sélectionneur des garçons a prévu d'assister à la rencontre au retour d'Andorre, où l'équipe de France masculine joue ce soir un match de qualification pour le prochain Euro.
L'équipe à suivre aujourd'hui, et c'est pas des moindres, hein, c'est les États-Unis.
Entrée en lice des championnes du monde en titre face aux Thaïlandaises à Reims, la superstar américaine, elle s'appelle Alex Morgan, 29 ans, attaquante, capitaine de Team USA. Plus de 9,5 millions de suiveurs sur les réseaux sociaux, c'est plus que Tony Parker ou Tiger Woods. Ces Américaines sont lancées à la conquête d'une quatrième couronne mondiale et elles ont les arguments pour y parvenir. C'est en tout cas ce que prédit Sandrine Roux, l'ancienne bleue consultante Europe 1.
Oui, elles restent favorites bien entendu et je pense qu'elles voudront surtout avant tout garder leur titre même si aujourd'hui cette équipe américaine domine moins qu'auparavant. Ça c'est indéniable puisque le niveau des équipes nationales s'est resserré. Elles ont une force mentale exceptionnelle et elles restent très 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 compétitives.
Et des Américaines qui sont en procès avec leur fédération pour discrimination sexiste généralisée, elles réclament d'être traitées comme les garçons. D'autant qu'elles pèsent outre-Atlantique, près de 2 millions de filles inscrites en club, c'est autant que les garçons en France et qu'elles génèrent autant si ce n'est plus d'argent que les hommes.
Une situation de discrimination que ne connaissent pas les Néo-Zélandaises, en revanche, c'est l'histoire du jour.
Nouvelle-Zélande-Pays-Bas, aujourd'hui 15h. La Nouvelle-Zélande, qui est devenue il y a un an la toute première nation au monde, a accordé une parfaite égalité de traitement entre ses footballeuses et ses footballeurs. Cela concerne notamment les sommes touchées en sélection.
Et c'est une très bonne idée. Rappelons que les joueuses de l'équipe de France, si elles atteignent la finale, toucheront 40 000 euros. C'est 10% de ce qu'avaient touché les hommes lors de la dernière Coupe du Monde. C'était le journal de la Coupe du Monde féminine de Jérôme Lacroix. Merci Jérôme et à demain. Allez, il y a urgence désormais de s'intéresser aux urgences.
Europe 1.
Je vous ai compris.
Ich bin ein Berliner.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
C'est historique.
Bonjour Fabrice Dalméda.
Bonjour à tous.
Alors que se poursuit aujourd'hui la grève des personnels soignants dans plus de 80 services d'urgence en France, est-ce qu'il y a, Fabrice, des causes historiques à ce malaise ?
Jusqu'au XVIIIe siècle, l'hôpital, c'est le lieu où se mélangent les pauvres et les malades pour y mourir. Les urgences, en fait, c'était soigner les gens là où ils avaient été blessés en cas d'accident ou de noyade ou, au mieux, chez eux. Mais un chirurgien, Jacques Thonon, à la veille de la Révolution, lance une nouvelle idée. L'hôpital doit être une machine à traiter des malades. On écarte les pauvres. Et un siècle plus tard, avec la création des ambulances municipales, hein, c'était des voitures à bras, puis des voitures à chevaux, et après, au début du siècle, des voitures à essence, on amène de plus en plus vite à l'hôpital les blessés graves, les électrocutés, les femmes enceintes. Et il y a des médecins de garde pour les prendre en charge. En 1941, l'État reprend les hôpitaux qui jusqu'alors étaient municipaux et il va même y imposer des postes de secours. Ce sont vraiment les ancêtres des services d'urgence.
Fabrice, quand commencent véritablement les premiers services d'urgence hospitaliers ?
Alors la loi instaure en 1970 ce qu'on appelle l'accueil d'urgence de jour comme de nuit. Ce qui prime, c'est l'urgence vitale, le malade ou l'accidenté que l'on doit traiter sans délai. Les choses sont claires, mais on va introduire dans les années 80 la notion d'urgence ressentie et tout d'un coup, il va y avoir une multiplication des patients.
Cela augmente, j'imagine, considérablement le nombre de patients.
Oui, les salles d'attente et les couloirs se remplissent de personnes en détresse psychique, droguées, alcoolisées, à côté des blessés graves ou des enfants accidentés. Les services d'urgence doivent se confronter à la grande pauvreté autant qu'à la grande douleur. Ce retour à l'hôpital comme lieu d'accueil de toutes les détresses est d'autant plus rapide que les Français ont une très bonne image de l'hôpital depuis les années 90. C'est donc difficile de répondre à cette demande sans plus de moyens, d'où la grève actuelle.
Merci beaucoup Fabrice Dalméda et à demain pour un autre décryptage de l'actu sous le prisme de l'histoire.
Europe 1.
Il est 6h16, Julien Pierce.
Debout les copains se poursuit dans votre salle de bain où figurez-vous, tous vos produits ne nous veulent pas que du bien. L'UFC Que Choisir publie aujourd'hui un hors-série sur les cosmétiques. Pour en parler, je reçois dans un instant Pascal Barlet, la rédactrice en chef de ce guide pratique. Très bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1.
Il est 6h20, l'essentiel de l'actualité, Julien Pierce.
Nouvelle journée de mobilisation dans de nombreux hôpitaux de France. Objectif, obtenir des hausses d'effectifs et des hausses de salaire. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, doit défendre devant le Sénat son projet de loi santé. Le trou de la sécurité sociale devrait encore se creuser cette année entre 1,7 milliard et près de 4,5 milliards selon la commission des comptes. Conséquence entre autres des mesures annoncées lors de la crise des Gilets jaunes. Et puis après la défaite face à la Turquie 2-0, l'équipe de France est à Andorre ce soir. Les champions du monde ont une dernière mission avant de partir en vacances. Quatrième match de qualification pour l'Euro 2020.
5h, 7h. Julien Pierce sur Europe 1.
Voici pour les titres de ce mardi 11 juin. Mais l'actualité, c'est aussi le lancement d'un guide pratique sur les cosmétiques. Guide rédigé par l'Association de défense des consommateurs Que Choisir. Bonjour Pascal Barlet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes la rédactrice en chef de ce hors-série sur les cosmétiques et vous avez passé au crible 170 produits du quotidien. On parle là de dentifrice, de shampoing, de déo, de crème hydratante. Qu'avez-vous découvert ?
Alors, on s'est inspiré de notre application qui s'appelle Quel Cosmétique, qui a été lancée il y a un an, qui est un grand succès avec plus de 170 000 produits de référence intégrés. Et on s'est dit, il y a un tel succès que pourquoi ne pas en faire un hors-série effectivement et essayer d'expliquer un petit peu aux consommateurs quels sont les dangers pour la santé. On trouve effectivement encore aujourd'hui un certain nombre de substances toxiques dans les produits que nous utilisons au quotidien. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre le consommateur par la main, le guider en ses achats.
Alors dans le détail, j'ai noté 143 substances préoccupantes. C'est quoi une substance préoccupante ? C'est une substance qui est interdite ? C'est une substance qui, on sait, qui est dangereuse pour la santé ? C'est quoi ?
Oui, alors ce sont des nuances que nous mettons en avant parce qu'en fait, chez Que Choisir, on s'appuie uniquement sur des publications scientifiques, des publications qui sont reconnues. Donc les scientifiques, en fait, ont mis en avant l'interdiction sur certains perturbateurs endocriniens. D'autres sont considérés comme étant dangereux, mais pas encore reconnus comme tels. Et les 143 substances que nous avons reconnues comme étant potentiellement dangereuses sont celles-ci. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elles sont encore présentes dans les cosmétiques, mais elles ne sont pas interdites.
Alors là, nos auditeurs sont peut-être dans leur salle de bain. Qu'est-ce qu'ils doivent regarder sur les emballages ? Est-ce qu'il s'est marqué dioxyde de titane ? Je vois que, par exemple, ce produit revient très souvent.
Et vous en demandez l'interdiction, d'ailleurs ?
Oui, on en demande l'interdiction effectivement, puisque c'est un colorant qui est assez dangereux, qui a été interdit récemment en fait par le gouvernement sur une recommandation de l'ANSES. Tout simplement, c'est un produit qui peut être ingéré. Donc, quand vous utilisez un baume à lèvres, un rouge à lèvres, voire un dentifrice, vous pouvez ingérer ce produit et à la longue, ça peut être dangereux pour la santé effectivement.
On peut lire sur les emballages parfois produits testés dermatologiquement. On peut acheter des produits de marque et se dire que ce sont des produits de confiance. Est-ce que c'est un critère fiable, la marque ou l'achat en pharmacie ?
Alors, c'est vrai que de plus en plus, les marques, on s'en rend compte, jouent sur un packaging qui se veut rassurant, sur des allégations marketing telles que celles que vous citez, qui peuvent être rassurantes a priori, mais qui ne le sont pas en réalité, puisqu'encore une fois, elles ne sont basées sur aucune vérité scientifique. Donc, en fait, on perturbe aussi le consommateur et c'est vrai qu'il n'y a plus vraiment de repères. On est un peu perdu face aux rayons, en quelque sorte.
Vous avez des exemples de produits qui sont meilleurs acheter en grande surface ?
Alors, il y a des produits, effectivement, qui sont meilleurs en grande surface qu'en pharmacie. La pharmacie, c'est, on se dit, la pharmacienne est en blouse blanche, ça me rassure, ça va être super, je vais vraiment avoir un bon conseil. Pas forcément. Il y a même des marques low cost qui ont d'excellents résultats.
C'est ça qui m'a étonné en feuilletant le guide hier soir pour préparer cette interview, c'est que dans la plupart des catégories, on retrouve très souvent des marques, comme vous dites, low cost, des marques de distributeurs.
Oui.
Qui sont assez simples en fait dans la composition. C'est ça qui fait la différence.
Mais c'est un peu la grande leçon pour moi de ce guide, c'est que finalement, ce qu'il faut éviter, c'est de multiplier les produits déjà, parce qu'il y a ce fameux effet cocktail. Il faut aussi essayer de retourner à une certaine simplicité. Alors ça va avec les marques, c'est pas parce qu'on paye très très cher un produit qui sera meilleur. Et puis, pourquoi pas un simple savon pour toute la famille, c'est très bien.
Dernière question, très rapide. Est-ce qu'il y a une catégorie de produits à proscrire absolument ?
Non, il y a vraiment des produits qui peuvent être dangereux dans tout type de produits. Pardon, si je puis dire, c'est-à-dire les shampoings, les dentifrices, etc. Après, c'est vrai qu'il y a des populations qui sont plus sensibles. Alors, par exemple, les enfants, les bébés, les femmes enceintes sont particulièrement sensibles. Et il faut faire attention aux produits qu'on utilise à ce moment-là.
Merci Pascal Barlet, rédactrice en chef du guide pratique de l'UFC Que Choisir sur les cosmétiques hors série que vous pouvez trouver dès aujourd'hui. Hein.
Absolument.
En kiosque au prix de 6,95€. Merci à vous et à bientôt.
Merci.
Europe 1. Il est 6h25, Julien Pierce.
Dans un instant, le journal complet de Sébastien Krebs et la météo de Céline Dacosta. A tout de suite sur Europe 1.
Il est 6h28, Julien Pierce.
Et avant de retrouver le journal de 6h30 de Sébastien Krebs, nouveau point sur la météo avec vous Céline Dacosta. Le temps encore frais et perturbé
ce
matin.
Oui, frais pour la saison, parce que les températures sont sous les normales de saison, de 2 à 4 degrés, même un petit peu plus cet après-midi. C'est d'ailleurs la journée la plus fraîche de la semaine, avec une moyenne de 7 à 12 degrés pour ce matin. 6 degrés à Nantes en ce moment, il en fait 8 à Tours, 9 à Lille, à Caen, seulement 10 à Brest et Paris, 11 à Bordeaux, 12 du côté de Mulhouse, c'est un petit peu plus doux près de la Méditerranée, avec 14 à 19 degrés déjà. Et puis cet après-midi, là aussi, on va rester sous les normales. Une moyenne qui ira de 14 à 20 degrés, un petit peu plus toujours dans le sud-est, avec 25 degrés à Toulon, la maximale de 26 à Ajaccio. Mais là aussi, ça a baissé, là, on faisait 30 hier.
Bon, ça, c'est pour les températures. Oui. Côté ciel, maintenant, c'est encore nuageux, voire par endroits ouais. Pluvieux.
Hein. C'est bien gris, hein, surtout entre le sud-ouest et le nord-est. De la pluie qui est déjà bien présente sur tout le flanc est et des pluies qui seront soutenues cet après-midi sur ce secteur et sur l'est du massif centrale également. Ciel plus mitigé pour les autres, avec quelques éclaircies au milieu de passages nuageux, même quelques brouillards ce matin. Et puis on a une nouvelle perturbation qui va arriver en fin de matinée par l'ouest, le nord-ouest, même précisément par la Bretagne, qui va apporter des averses pour la Bretagne, les Pays de la Loire et puis également le Cotentin. Des averses qui vont tourner à l'orage dans l'après-midi.
Bon, merci Céline.
5h, 7h, Julien Pierce sur Europe 1.
Vous écoutez Debout les copains, très bon réveil à tous. Après le journal de Sébastien Krebs, on retrouvera nos trois fantastiques, Anne Le Gall, Mickaël Darmon et Axel de Tarlé. Mickaël va nous expliquer pourquoi Christian Jacob tient la corde pour devenir le nouveau président des Républicains. Une majorité de Français prêts à renoncer à un voyage si la destination en question est trop prisée des touristes, ce sera la chronique d'Axel de Tarlé. Enfin, Anne Le Gall va nous conseiller un documentaire diffusé ce soir sur Arte.
Vous écoutez Europe 1, il est 6h30. 5h-7h, Julien Pierce.
Et le journal de 6h30 vous est présenté par Sébastien Krebs. Bonjour Sébastien.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Trois titres à la une, Sébastien.
Le malaise dans les hôpitaux, quasiment un tiers en grève aujourd'hui et plus seulement aux urgences, au moment où la ministre de la Santé défend son projet de loi au Sénat. La traque à Lorient pour retrouver le chauffard qui a renversé deux enfants dimanche. Il conduisait sans permis. Sa famille l'appelle à se rendre. Et puis vous entendrez Tony Parker, le plus grand joueur du basket français, tire sa révérence. Il prend sa retraite sans regret après 18 ans passés en NBA.
Europe 1.
Ce malaise est profond et il ne touche plus seulement les services d'urgence. Au moment où le Sénat doit adopter aujourd'hui le projet de loi santé défendu par Agnès Buzyn, 300 hôpitaux français sont donc touchés par un mouvement de grève. Les soignants demandent plus de moyens humains et financiers pour faire face à un afflux de patients toujours plus important. Manque d'espace, de personnel, d'équipement. Illustration dans le Vaucluse, hôpital de Pertuis en zone rurale. Cet hôpital au bord de l'asphyxie. Reportage Nathalie Chevance.
Milieu d'après-midi, la petite salle d'attente est déjà bondée. Evelyne, infirmière urgentiste, gréviste en t-shirt noir, gère les cas les plus graves déjà enregistrés.
Donc vous voyez que tout cela n'a pas été vu au moment où ils sont arrivés. Et ça fait 3 heures. Et c'est ça, c'est là que c'est dangereux, parce que si on ne les voit pas au moment où ils arrivent, on peut passer à côté. On se dit, si on a une personne gravissime, on va la mettre où ? C'est de la bricole et c'est l'angoisse.
Car dans le service, tous les box sont déjà pris, même la salle de déchocage, manque d'espace, d'équipement et de personnel. Face à des malades de plus en plus nombreux, Céline, infirmière gréviste, réquisitionnée.
Aujourd'hui, je travaille en 12 heures parce qu'il manquait du monde. Jusqu'au 22-23, je n'ai pas 2 jours de repos consécutifs. Épuisant. Les locaux sont sous-dimensionnés. Le temps que les travaux se fassent et qu'on ouvre un service, eh ben, il est déjà dépassé, terrible.
Et dans les couloirs, sur les brancards, les malades perdent patience. Yvon, 82 ans, est là depuis.
Ça fait 3 heures, c'est très long. Moi, j'aurais aimé qu'on me mette ma femme à côté de moi.
Là, vous êtes tout seul.
Voilà, très très en colère. 3 heures là, impensable.
Il manque ici aux urgences un brancardier, deux infirmières. La direction de l'hôpital affirme ne pas disposer de budget. Pertuis, Nathalie Chevance, Europe 1.
Et on apprend dans ce contexte déjà tendu pour le système de santé que le trou de la sécu se creuse à nouveau, les comptes replongent dans le rouge. Alors que le gouvernement tablait sur un retour à l'équilibre cette année, il manquera entre 1 et 4 milliards d'euros dans les caisses de la sécurité sociale. Il a 20 ans et c'est un récidiviste de la conduite sans permis. Le chauffard qui a tué un enfant de 10 ans et grièvement blessé un autre dimanche à Lorient est toujours activement recherché ce matin, de même qu'une femme qui l'accompagnait, sa famille qu'a pu rencontrer notre envoyée spéciale Hélène Terzian, l'appelle à se rendre.
Depuis le drame, la grand-mère du suspect ne fait que ça. Accrochée à son téléphone, en faisant les 100 pas, elle essaye de joindre son petit-fils qui ne répond pas. Les larmes aux yeux et la gorge nouée, elle aimerait lancer un appel pour implorer le jeune homme de se rendre, mais elle ne veut pas perturber l'avancée de l'enquête. C'est toute une famille qui s'interroge. La tante est abasourdie, elle ne comprend pas ce qui a pu passer par la tête de son neveu. Pourquoi ne s'est-il pas arrêté après l'accident ? Quant au père du suspect, joint par téléphone, il ne peut retenir ses larmes, désorienté, effondré. Il tient à tout prix à collaborer avec les enquêteurs. Tous sont d'accord. Le jeune homme a fait une énorme bêtise. Il doit se rendre, martèle-t-il, avant tout pour respecter le deuil de la famille des deux enfants fauchés, mais aussi dans l'intérêt de l'enquête et du sien.
Hélène Terzian à Lorient pour Europe 1. Les 12 enfants arrivés hier soir sur le sol français en provenance de Syrie ont été remis au service de protection de l'enfance et seront placés en famille d'accueil. Le plus âgé a 10 ans, tous sont des enfants de djihadistes français ayant rejoint les rangs de Daesh et pour la plupart sont orphelins.
À suivre dans ce journal cet accident impressionnant en plein cœur de New York. Un hélicoptère s'est crashé sur le toit d'une tour de Manhattan. A tout de suite.
Il est 6h34.
Europe 1.
Il est 6h36, Julien Pierce.
La suite du journal de Sébastien Krebs et nous allons à New York. Manhattan a eu très peur hier soir.
En plein brouillard, un hélicoptère a raté son atterrissage sur le toit d'un gratte-ciel tout proche de Times Square. La tour a tremblé, l'appareil a explosé. Seul le pilote est mort dans l'accident et cela aurait pu être bien pire. Plus de 2000 personnes travaillaient dans la tour. Grosse frayeur et évacuation immédiate, notamment pour les salariés de BNP Paribas que dirige Jean-Yves Fillion.
J'étais dans le building, je suis dans un des étages les plus élevés, donc en fait l'impact, bien sûr, s'est ressenti immédiatement et on m'a immédiatement signifié qu'il fallait évacuer le building dans les meilleurs délais et dans ces cas-là, bien sûr, sans utiliser les ascenseurs, donc utiliser les escaliers de secours et de service. Pas de mouvement de panique, surtout beaucoup de solidarité. Ceux en bonne condition physique ou, j'allais dire, émotionnellement stable, aidant les collègues qui pouvaient avoir besoin d'assistance, d'aide. Et tout ça contribue d'ailleurs au bon déroulement des opérations. Tous les membres de BNP Paribas et les employés sont en toute sécurité. Donc c'est surtout ce moment-là que je vais retenir.
Le directeur général de BNP Paribas à New York, joint par Sonia Dridi. Vous vous souvenez sans doute de cette affaire qu'Europe 1 vous révélait le mois dernier. Deux salariés d'un supermarché Cora licencié parce qu'il refusait de travailler le dimanche, alors même que la loi stipule qu'on ne peut pas l'imposer. La direction du groupe avait alors promis des négociations. Elles débutent aujourd'hui dans un climat électrique. Emmanuel Duteil.
Faire en sorte que le travail du dimanche soit uniquement sur la base du volontariat, c'est l'objectif des syndicats de Cora. Ils ont fait passer des propositions à leur direction et les discussions formelles commencent aujourd'hui. Trois réunions d'ici à juillet sont prévues. Mais les relations sont tendues en interne. Selon les syndicats, la pression est forte sur les salariés des 61 magasins Cora en France pour travailler le dimanche. On nous oblige à travailler plusieurs dimanches par an. Si on refuse, on est confronté à des horaires très compliqués, comme par exemple très tard le soir dans la semaine, assure un syndicaliste. Toujours, selon ces syndicats, les salariés licenciés de Saint-Malo ne seraient pas des cas isolés. Plus d'une dizaine de licenciements récents pourraient être, selon eux, le résultat d'un refus de travailler le dimanche. Mais selon les syndicats, dans la plupart de ces cas, le motif est toujours un autre que le travail du dimanche, comme par exemple l'insubordination. C'est pour éviter toutes ces contraintes et surtout tous ces conflits que les syndicats espèrent obtenir un accord avec leur direction.
Emmanuel Duteil du service France d'Europe 1. C'est une avancée qui vous concerne si vous faites partie des 800 000 parents qui font garder leur enfant chez une nounou ou une assistante maternelle. Le gouvernement devrait le confirmer aujourd'hui. À partir de la fin du mois, vous n'aurez plus à avancer l'ensemble du salaire. Les aides des allocations familiales seront désormais automatiquement déduites sur le service en ligne Page Emploi. Et puis, on termine avec Tony Parker, 18 ans passé en NBA. On fait de lui une légende du basket français à 37 ans. Il raccroche donc son maillot et quitte les parquets avec un palmarès de 4 titres aux États-Unis et un championnat d'Europe remporté avec l'équipe de France. Et surtout sans regret, comme il l'a confié hier soir à Christophe Lamar. Décision mûrement réfléchie, dit-il.
Oh, ça fait longtemps que j'y ai pensé et je trouvais que c'était le bon moment. Je me suis longtemps préparé pour l'après-carrière et donc je suis excité pour le futur et pour tous mes projets. J'y ai beaucoup réfléchi et ça ne m'intéresse pas de jouer au basket si je ne suis pas moi-même, si je ne suis pas Tony Parker et on essaye de gagner un titre.
Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Je sais qu'il y a l'ASVEL, il y a la finale, mais quelle va être la vie de Tony Parker maintenant?
Bah, tu viens de le dire, hein. Il y a la finale avec l'ASVEL, on vient de gagner avec les filles, donc maintenant c'est essayer de rentrer dans l'histoire et gagner avec les garçons. Il y a mon académie qui va ouvrir en septembre. On a fait un super projet avec Villard-de-Lans et la station de ski. Donc il y a plein de projets et de belles perspectives.
Tony Parker, si je vous demande une image que vous retiendrez de votre carrière, alors je sais qu'il y a l'équipe de France qui vous tient à cœur, mais une image.
Une image, bah, c'est dur de choisir une image.
Allez, deux.
Moi, je dirais mes 4 titres à NBA et le titre de champion d'Europe.
Et c'est pas mal, elles sont pas mal ces 4 images. Tony Parker au micro Europe 1 de Christophe Lamar.
C'était le journal de Sébastien Krebs. Merci Sébastien. On s'intéresse maintenant au ciel, Céline.
Oui.
Ciel encore agité aujourd'hui. Hein.
Oui, c'est vrai, avec des averses qui concerneront quasiment tout le monde. Elles seront même soutenues entre le Massif central et le flanc est cet après-midi. On aura des orages également sur le nord-ouest, une perturbation qui va arriver en fin de matinée. Temps agité qui va concerner les 3/4 du pays demain. Ce sera plus calme entre le Massif central et la région PACA avec le retour de larges éclaircies. On en aura quand même des éclaircies aujourd'hui, hein, au milieu de toute cette agitation. Accalmie jeudi sur le flanc est, et puis ça va rester orageux sur le nord-ouest. On se dirige vers un ciel mitigé pour cette fin de semaine, avec des nuages, des averses, des éclaircies. Vous voyez, ça va être un petit peu ça toute la semaine.
Oui. Bon, merci Céline.
Mais je vous en prie. Europe 1. Il est 6h41, Julien Pierce.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 pétri d'infos, d'amour et de bonne humeur. Dans un instant, nos trois fantastiques, Anne Le Gall, Mickaël Darmon et Axel de Tarlet, viennent parler politique, économie et médias. A tout de suite sur Europe 1.
Il est 6h44, l'essentiel de l'actualité, Julien Pierce.
Près d'un tiers des hôpitaux français touchés par un mouvement de grève aujourd'hui, et ce n'est plus seulement les services d'urgence, les personnels soignants alertent sur le manque de moyens au moment où le Sénat s'apprête à adopter le projet de loi santé. Les comptes de la Sécu dans le rouge, le déficit devrait se creuser à nouveau cette année, il manque entre 1 et 4 milliards d'euros dans les caisses de la Sécurité sociale alors que le gouvernement prévoyait un retour à l'équilibre. Et puis le foot ce soir, les Bleus n'ont pas le droit à l'erreur en Andorre après la défaite encaissée en Turquie 2-0. Nouveau match des éliminatoires de l'Euro 2020.
5h, 7h, Julien Pierce sur Europe 1.
Et à 6h45 sur Europe 1, il est l'heure de retrouver nos trois fantastiques. Anne Le Gall pour la télé, Axel de Tarlet pour l'économie et Mickaël Darmon pour la politique. Bonjour à vous trois.
Bonjour Julien.
Enfin, rebonjour pour Anne Le Gall, parce que sinon je vais me faire engueuler. Une semaine après la démission de Laurent Wauquiez à la tête du parti Les Républicains, les grandes manœuvres se poursuivent en coulisses pour sauver la droite du naufrage. Et pour l'heure, Mickaël, un consensus semble s'établir sur le nom d'un nouveau capitaine. Christian Jacob. Pourquoi Christian Jacob ?
Eh bien, ce qu'il y a de bien avec la tradition de ce parti issu du vieux RPR, c'est qu'on connaît le résultat de l'élection avant le vote. Et comme l'heure est grave, eh bien, un candidat unique au plébiscite, c'est rapide et c'est plus efficace. Christian Jacob, donc patron des députés LR, est celui qui est considéré comme le plus rassembleur parce qu'il est issu de la Chiraki première pression, un principe chiraquien qu'il a toujours appliqué. Un chef s'est fait pourchefer. L'ancien président donc des jeunes agriculteurs de Seine-et-Marne a tracé son sillon toute sa carrière sans jamais dévier de sa ligne. Il y a un temps pour le combat et ensuite on respecte le vainqueur. Donc dans les coulisses des tractations, Jacob est considéré aussi par l'Élysée, il faut le savoir, comme le meilleur ennemi capable de représenter une force politique d'opposition responsable, donc qui évitera le piège de l'obstruction systématique. Il veut aussi préserver, bien sûr, l'équilibre de son groupe de députés et il permettrait d'éviter le scénario qui a tenu quelques jours, il faut le savoir, d'une candidature de Nadine Morano ou de Guillaume Pelletier.
Pour autant, est-ce qu'avec une candidature de Christian Jacob, tous les problèmes seraient réglés, Mickaël ?
Eh bien, pas vraiment, parce qu'il y a une bataille de tranchées guichet crucial qui se joue en ce moment, c'est celle de la bataille de la commission d'investiture tenue par Éric Ciotti, proche de Laurent Wauquiez, hein, dans le cadre de la rénovation possible de LR. Certains ne comprennent pas pourquoi Éric Ciotti aurait la haute main sur des investitures ultra sensibles. Et d'ailleurs, du côté de la commission, on s'apprête à donner donc investiture à des candidats plutôt dans la mouvance de l'ex-président. Ce serait donc un blocage du système par les proches de Laurent Wauquiez, protestent les adversaires dans le parti. Donc la commission d'investiture, c'est le cœur du réacteur donc, d'un parti. Et l'enjeu de ces prochaines semaines sera de savoir quelle bannière donc, sera déployée sur son toit. Donc on le voit au sein du parti LR. Pendant le naufrage, eh bien, l'orchestre n'arrête pas de jouer.
Voilà, donc l'info principale, Michael Darmon, c'est que Christian Jacob tiendrait la corde pour diriger, présider les Républicains. On passe à l'économie, Axel de Tarlé. Attention au ravage du tourisme de masse. 6 Français sur 10 se disent prêts à renoncer à un voyage à cause du surtourisme.
Voilà, c'est ce que montre un sondage qui a été publié hier et qui est réalisé pour le comptoir des voyages. Alors le surtourisme, ça devient un sujet, ça va l'être de plus en plus, puisque selon l'Organisation mondiale du tourisme, chaque année, le nombre de touristes augmente de 6%. Et aujourd'hui, il y a 1,4 milliard de touristes. Donc si, imaginez, tous ces touristes se donnent rendez-vous au même endroit, ça fait des dégâts. Et déjà, bien sûr, il y a des spots, il y a une liste d'endroits à éviter au moment chaud de juillet-août. Alors, bien sûr, je ne vais pas vous étonner, je vais vous faire cette liste. Il faut éviter Venise maintenant, Venise l'été, qui a été tout un symbole quand même, percuté récemment là, par ce paquebot, voilà, plein de touristes. Alors, donc un touriste de masse qui est capable d'engloutir une ville. Vous savez qu'en 50 ans, Venise a perdu les 2/3 de ses habitants. Bah oui, les Vénitiens s'en vont, puisqu'ils préfèrent louer d'ailleurs leur modeste appartement pour des touristes. Et donc aujourd'hui, Venise, c'est une ville où il y a 50 000 habitants et il y a chaque année 30 millions de visiteurs. C'est quasiment la population de la Pologne qui débarque chaque année sur ces petites lagunes. Donc évidemment, ça devient grotesque. Vous savez qu'il y a des portiques maintenant pour accéder à la place Saint-Marc, etc. Alors, petite Venise, qui va une Venise en devenir, c'est Dubrovnik. Ouais. La population de Dubrovnik, c'est 43 000 habitants. C'est combien il y a de visiteurs chaque année? 4 200 000. Ouais. Vous avez 100 fois plus de visiteurs que d'habitants, ce qui fait que franchement, la vieille ville, moi j'en ai fait l'expérience en juillet-août, bah écoutez, c'est le métro aux heures de pointe, on se suit tous, là, tous les touristes, en short, on fait attention de ne pas trop se marcher les uns sur les autres. Alors, sont également cités des tas de spots, comme on dit, mondiaux. Alors, je ne connais pas, moi, le Taj Mahal en Inde, le Machu Pichou au Pérou, les îles Galapagos. Apparemment, il y a plus maintenant de touristes et de papiers gras que de tortues ou de lions de mer. Le Vatican, probablement un jour la chapelle Sixtine. D'ailleurs, allez vite la voir parce que probablement un jour, elle sera interdite aux touristes tellement c'est devenu une foule incessante. Vous avez même des endroits inaccessibles qui sont envahis de touristes. Je ne sais pas si vous avez vu cette photo.
Malaga.
Voilà. De l'Everest, où il y avait une queue-leu-leu de touristes voulant accéder donc, au sommet. Et vous avez aussi...
Qui ont laissé perdu la vie pour certains. Hein. Il y a eu, un record.
Voilà. Il y a eu une dizaine de morts. Voilà. Et vous avez même des villes entières qui sont en train de basculer dans le surtourisme. Et ça devient des sujets pour les municipalités. Vous avez Amsterdam ou Barcelone. Ça veut dire quoi, une ville qui bascule dans le surtourisme? Ça veut dire que les commerces traditionnels ferment pour laisser place à des boutiques de souvenirs. Et ça veut dire que les logements de centre-ville ne sont plus pour les habitants, mais sont tous dédiés au tourisme, sont tous dédiés, donc deviennent des Airbnb. Voilà, je ne sais pas où vous avez prévu d'aller passer vos vacances cet été, mais je vous ai dit, là où il ne faut pas aller, il y a des tas d'endroits en France, des contrées reculées, comme chez vous, Anne, vous êtes bretonne de Quimper, j'imagine que là...
Du Finistère, mais le secret est bien gardé, il ne faut pas le dire à tout le monde, voilà, que c'est très beau, sinon tout le monde va y aller.
Il n'y a pas encore de surtourisme là-bas. Hein.
Et le Portugal, chère Céline Da Costa.
Le Portugal, le tourisme s'est énormément développé, il y a beaucoup plus
de
tourisme.
Le centre-ville de Porto et de Lisbonne, c'est que du Airbnb.
Et on entend plus parler français que portugais. Merci en tout cas, Axel de Tarlé. On termine ce tour de table avec vous, Anne Le Gall. Qu'est-ce que vous nous conseillez de regarder ce soir à la télé?
Je vous invite à regarder Arte à 20h50 pour un documentaire de 55 minutes qui décrit un mouvement de révolte inédit au sein de la jeunesse américaine. Un mois après la tuerie du lycée de Parkland en Floride qui a fait 17 morts, des lycéens ont organisé en mars 2018 l'une des plus importantes manifestations de rue depuis les années 60. Grâce aux réseaux sociaux, ils ont réussi à mobiliser simultanément des millions de jeunes dans 700 villes des États-Unis. Ces étudiants réclament une législation plus stricte sur la vente d'armes et l'interdiction des fusils d'assaut.
Pour la génération mass shooting, celle des tueries de masse, la Saint-Valentin 2018 marque un tournant. Ce jour-là, une nouvelle fusillade se produit au lycée de Parkland, en Floride.
À chaque fois, c'est la même chanson. Les gens se contentent de penser et de prier pour les victimes. Mais là, on s'est dit, ça suffit comme ça.
Et l'on découvre dans ce documentaire que ces étudiants qui crient leur colère et appellent à une réaction citoyenne par le vote ne sont pas seulement des lycéens de quartiers huppés traumatisés par les tueries de masse, ce sont également des jeunes issus de certaines banlieues pauvres, comme ces deux lycéens de 17 ans qui vivent dans le West Side de Chicago, l'un des endroits les plus violents des États-Unis.
On n'entend que des coups de feu, des ambulances, des sirènes de police. Ma vie se résume à la violence des armes.
Mon frère a été tué par une arme à feu. Il s'appelait Titus Jackson. Il a été abattu sur la 95e rue, près de la voie ferrée. On l'a retrouvé dans une voiture.
Chiffre éclairant cité dans ce reportage, il y a 265 millions d'armes en circulation aux États-Unis, mais elles ne sont détenues que par 22% des foyers américains. L'autre intérêt de ce documentaire, c'est de nous décrypter justement le lobbying politique, les stratégies commerciales de cette industrie des armes en perte de vitesse. États-Unis, génération massacre, c'est donc à voir sur Arte ce soir à 20h50.
Donc 265 millions d'armes pour une population environ de 350 millions d'habitants. Oui. Le ratio est quasiment de 1. Hein.
Ça veut dire qu'il y a des familles qui en détiennent largement plusieurs.
Voilà, merci Anne Le Gall, merci à vous trois, les fantastiques, et à demain.
À demain.
À demain.
5h-7h, Julien Pierce.
Debout les copains, touche à sa fin. Dans quelques instants, je laisserai le micro à l'animateur le plus rock'n'roll du PAF, Nikos Aliagas, bien entendu. À tout de suite sur Europe
1. Il est 6h53. Il est 6h56, Julien Pierce.
Debout les copains s'achève pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis à demain. Bonjour mon cher Nikos.
Bonjour, il n'y a pas de débrief, vous ne me vannez pas.
Non, j'avais prévu de vous faire écouter un peu de rock parce que j'ai vu votre t-shirt avec vos têtes de mort. Là, je me suis dit, vous êtes dans le mood.
Allez-y, faites
dans le mood. Allez-y. Allez, on écoute.
Et il apprécie.
C'est pas mal, hein.
Allez, ça, on lève les bras.
Moi, ça me va, ça me va. J'ai pas les cheveux longs pour bouger la guitare,
c'est
mais
dommage.
Je suis pas loin, je suis pas loin.
Allez, c'est merci. The Black Keys, et dont le prochain album sort à la fin du mois. Voilà.
Alors, je vais vous donner un scoop. Moi, à 6h02, j'écoutais les Stones dans mon bureau à fond.
Donc... On a entendu,
oui.
Jusque dans le studio.
C'est vrai.
Ouais, on s'est demandé d'où ça venait. On n'a pas cherché très loin.
Rock'n'roll. Merci beaucoup.
Allez,
Julien. Merci Anne. Je vous embrasse.
Bonne journée, Nikos.
Bonjour, Céline Lacoste.
Bonjour, Nikos.
Vous êtes très pétillante ce matin.
Mais je vous remercie, vous aussi.
Êtes-vous aussi pétillante que Lolo Cabrol?
Alors, il faut dire qu'il y a du niveau avec Laurent Cabrol, c'est ce que j'allais dire, voilà.
Parlons un peu de la météo pour bien commencer la journée, ben 6h57.
Mon problème, mon cher Nico, j'allais dire mon petit Nico. Mon cher Nico, le problème de cette journée, c'est que vraiment elle n'est pas sympa. Alors, je vais dire à nos amis, armez-vous de courage, il sera frais le temps, il sera perturbé, il sera nuageux, et il y aura pas mal de pluie. Alors, certains d'entre nous n'ont pas eu de pluie cette nuit, ils en auront dans la journée sous forme d'averse. Je vais vous donner déjà un petit détail. Béarn, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, région Rhône-Alpes, Franche-Comté, Lorraine-Alsace, Vallée du Rhône, les pluies seront fréquentes. Bretagne, Poitou-Charentes, Aquitaine, puis un petit peu plus tard dans la matinée, les Pays de la Loire et de la Normandie, des averses fréquentes, avec des orages. En région parisienne, le Nord, la Champagne-Ardenne, le Centre, la Picardie et le Dijonnais, profitez de la matinée, elle sera souvent ponctuée d'éclaircies, puis ensuite nous aurons des averses. Et puis la Côte d'Azur et la Corse, là, c'est l'éclatement. Alors je ne m'en dis pas plus. Je le dirai tout à l'heure à nos amis que la Côte d'Azur et la Corse, mais ils le savent déjà. Oui. Il fait 20 degrés à Bastia. Il en fera 27 cet après-midi.
Oh là là.
C'est vraiment un point chaud. C'est parce qu'il y a du Sirocco qui vient de Tunisie. Et là, vous en profiterez ardemment. Si vous le voulez, vous, amis des autres régions, si vous voulez avoir du soleil, c'est là qu'il faut aller. Température maximale, 13-18 au nord, 20 à Paris et 24-27 dans les régions du sud.
Amis du Sirocco tunisien, bienvenue. Merci beaucoup Laurent Cabrol. À tout à l'heure.
Oui, le prochain point météo, ce sera juste avant le journal de 7h30.
5h, 7h. Julien Pierce sur Europe 1.